Alors, du coup, je vais quand même aller vite puisque je ne voudrais pas dépasser, donc il me reste 10 minutes. L'écologie, ce n'est pas seulement une préoccupation environnementale liée à la lutte contre le réchauffement climatique et l'érosion de la biodiversité. L'écologie comme sagesse, logos ou rationalité, de mon habitation de la terre ou du foyer commun, oikos, a une dimension non seulement sociale, de cohabitation avec les autres, qui est liée aussi à la manière dont on partage, ce que moi j'appelle pas les ressources, mais les nourritures, pour sortir de la dimension seulement instrumentale des paysages et autres. Mais elle a aussi une dimension existentielle. Elle est liée à la manière dont nous pensons, ne pas être, n'avoir la souveraineté exclusive sur tout, et dont nous pensons être dans une communauté biotique, avec évidemment des différences avec les autres animaux, les autres vivants. Mais l'écologie a une profondeur. Elle suppose bien plus une révolution anthropologique, excusez-moi cette formule un petit peu spectaculaire, mais c'est-à-dire qu'elle est essentiellement liée à la prise de conscience et à l'acceptation des limites planétaires d'abord, ce qui est quand même un défi quand on a construit toute la prospérité sur l'abondance et l'idée que la nature était une géante et nous, le prolétaire de la création. Elle est aussi essentiellement liée à la prise de conscience de de nos limites, de notre faillibilité, mais également de nos limites temporelles. Et pour moi, plus je considère la difficulté que nous avons à accepter la vulnérabilité et aussi la mortalité, je considère ça comme une des causes qui fait que on a du mal à assigner des limites à notre bon droit de faire tout ce qui est bon pour notre conservation au nom du droit des autres vivants, humains et autres qu'humains, à exister. Donc l'écologie suppose, en plus, si on prend la dimension pratique ou politique de l'écologie, qui implique des restructurations dans les échanges, dans les modes de production énormes, au niveau de l'énergie, etc., elle suppose aussi de partir des limites et au premier rang desquelles la limite temporelle, puisque nous entrons dans le temps du délai, comme dit Günther Anders, c'est-à-dire que le temps pour mener des politiques publiques ayant une efficacité et endiguant de manière réelle le réchauffement climatique et l'érosion de la biodiversité est court. La fenêtre d'action s'est restreinte. Donc on voit que le point de départ de politique constructive, c'est la prise de conscience des limites à notre liberté. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas d'initiative, mais la responsabilité passe par l'acceptation de ces limites et par le refus du déni des limites, par le refus du déni aussi la limite la plus fondamentale qui est celle de la mortalité. Donc du coup, et dans un travail précédent, j'avais beaucoup insisté sur le fait qu'en voulant se sauver, on se perd, et que le déni de la mort, j'empruntais ça à un psychologue Ernst Becker, qui est mort d'ailleurs à moins de 40 ans, qui a fait un livre magnifique, Denial of Death, qui n'est pas traduit en français, et il montre que l'invariance, ce n'est pas le complexe d'Oedipe, pour lui c'est le déni de la mort, qui n'est pas tellement encadré aujourd'hui dans nos sociétés. Il dit la terreur que génère l'angoisse de mort est telle que beaucoup d'individus ont tendance à non seulement la réprimer, mais aussi user de stratégies de défense qui vont les perdre. Exemple, présentisme, exemple, l'addiction à la consommation, l'addiction tout court, exemple, le fait d'embrasser des idéologies excessives, faisant à croire qu'on participe à quelque chose de grandiose pour avoir une sorte d'immortalité par procuration. Donc là encore, le fil rouge, si on demandait, comme Adorno dans les années 50, qu'est-ce que l'éducation après Auschwitz, qu'est-ce que l'éducation à la maturité, Erziehung sur Mündigkeit, qu'est-ce que l'éducation à la débarbarisation, puisque un projet de lumière, d'émancipation individuelle et collective est aujourd'hui extrêmement fragilisé on le voit. Hein. On sait ce qu'il faut faire, mais on ne voit que des obstacles à la transition écologique, à la démocratisation, à l'égalité même, ce qu'on avait acquis dans nos pays, égalité homme-femme, etc. Eh bien, quelles ressources on aurait au niveau d'une éducation, mais le mot éducation, c'est pas pédagogie, hein, Erziehung. Qu'est-ce que, eh bien justement, cette éducation à la maturité, c'est pas seulement, donc je le disais au début, penser par soi-même, exercer son esprit critique, ça c'est important, mais c'est aussi avoir le courage de traverser la négativité, de ne plus être un analphabète de la peur, comme disait Günther Anders, mais de voir ce que ces grands défis que nous avons, l'écologie, le réchauffement climatique, les problèmes sanitaires qui vont autour, les grandes restructurations que ça exige, évidemment la violence extrême infligée aux êtres qui incarnent le corps donc les animaux, hein, cette violence envers les animaux est pour moi la manifestation ultime d'un déni de la mort qui génère une culture de mort, hein, qui va conduire à la mort des êtres, justement parce que justement ils reflètent une part de nous que nous rejetons. Et au contraire, eh bien, la clé pour de nouvelles lumières, et ça c'était dans Dialectique der Aufklärung, ce texte étrange fait par Adorno Horkheimer dans une condition où ils étaient assiégés par la catastrophe, hein, eh bien, il parle à un moment et dit, puisqu'on dit souvent, oui, l'école de Francfort, ils ont critiqué les lumières, oui, 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 c'est vrai, mais il y a un moment il dit, on peut sauver la raison des raies de la domination dans laquelle elle est et ouvrir la porte à de nouvelles lumières. Moi, j'avais essayé de faire ça dans un livre qui s'appelait « Lumière à l'âge du vivant » et sans qu'ils le disent aussi clairement que cela, mais c'est un petit peu en filigrane et moi, je l'ai essayé de l'exprimer, c'est que la clé pour sortir de la domination, de la prédation à l'égard de la nature, des animaux et pour sortir de la domination à l'égard d'autrui, des autres cultures, eh bien la clé c'est une réconciliation avec notre propre nature, avec la condition engendrée, mortelle et vulnérable. Et l'écologie travaille exactement cela. La démocratie travaille cette altérité, cette diversité, ce caractère non achevé de nos vies et cette unicité. Et l'écologie travaille essentiellement la question des limites, limites planétaires, limites que nous avons, limites du temps. Et c'est la réponse, la démocratie écologique, à justement notre vulnérabilité, le fait que nous ne sommes pas seulement des êtres qui de liberté ou liberté pensée de manière d'extériorité, volonté, comme projet, mais nous sommes marqués par le malgré soi, la vulnérabilité, la passivité, et dépendants des éléments, des aliments, des écosystèmes et des autres vivants. Et cela oblige à construire, organiser la vie sociale et politique de toute autre manière que nous l'avons fait jusqu'à présent, en justement essayant de penser une puissance qui n'est pas la domination. Une puissance qui ne tombe pas sous, qui n'est pas la domination, car la domination, c'est très vite quelque chose qui fait oublier qu'on a des limites. Et Simone Veil, dans ce texte sur la guerre, qui s'appelle L'Iliade ou le poème de la force, Simone Veil, morte à 34 ans, philosophe incandescente, disait « Ceux qui sont sous l'empire de la force oublient que la guerre peut avoir une fin, les raisons pour lesquelles ils l'amènent, et ils croient toujours pouvoir maintenir cette force. Ils vont de plus en plus loin. Donc c'est cette logique. L'empire de la force est une emprise. C'est ça. Et donc, du coup, c'est cette réflexion que j'ai voulu mener sur donc les, et je conclurai ainsi, les ressorts inconscients de nos comportements de l'adhésion à des discours qui vont perdre un pays, hein, mais aussi quelle énergie saine et non pathologique pourrait justement rendre la démocratie désirable, faire en sorte que ses qualités ne lui soient pas reprochées, ce caractère incoatif, jamais certain, etc., mais au contraire, hein, qu'elle soit considérée comme la réponse à notre condition engendrée, et le projet écologique, dans sa profondeur, n'étant pas une manière de verdir la politique, mais plutôt d'écologiser la politique, c'est-à-dire à l'intérieur même de la réflexion éthique et politique, voir que notre condition n'est pas celle seulement d'être de liberté et de volonté, mais qu'elle a une matérialité et que nous sommes donc dépendants des autres êtres et des écosystèmes. Alors je finirai par deux citations qui donne un peu la tonalité de ce travail. Ricoeur, dans sa préface à la traduction française de Human Condition, d'Arendt, dit « Si la possibilité du monde totalitaire est à chercher dans une méditation sur le mal radical, la possibilité du monde non totalitaire est à chercher dans les ressources de résistance et de renaissance contenues dans la condition humaine en tant que telle. » Deuxième, Maria Zambrano, donc cette magnifique philosophe et poète qui a passé 40 ans en exil après Franco, après la fuite d'Espagne de Franco dans l'île de Porto Rico, de l'échec de notre passé, ainsi que de l'angoisse de notre présent d'Européens, naît l'espérance. L'espérance que germe dans le présent ce que nous n'avons pas été, ce que nous n'avons pas eu. C'est seulement ainsi, d'un vaste amour sans rancœur, embrassant le passé, le présent et les joignant dans un salut commun, que peut se réaliser l'impossible. L'impossible, c'est sortir de ce dont la raison nous dit être esclave. L'impossible, c'est de parvenir à sortir de toutes les antinomies dans lesquelles nous sommes emmêlés. Donc la démocratie exige l'amour, lequel, disait Erich Fromm, suppose qu'on dépasse cette sorte de blessure narcissique, qu'on arrive à traverser la négativité pour reconnaître l'altérité en soi et en l'autre. Je vous remercie.
Merci beaucoup pour cette clôture qui est plutôt une ouverture, ce qui la rend particulièrement riche. Merci d'avoir... On a fait un chemin ici ensemble, donc certains dans le public, et ça me fait très plaisir, on fait avec nous. C'est très beau d'arriver quand même à quelque chose qui nous encourage et qui fait appel à nous, malgré toute la difficulté évidemment que contient cette entreprise. Mais je vais tout de suite ouvrir cette discussion, puisqu'on est là pour vous. Est-ce qu'il y a des questions? Il y aura mes collègues qui ont des micros pour recueillir vos questions éventuelles ou vos remarques.
Merci, c'est très intéressant votre discours. J'aimerais vous demander sur le rôle des réseaux sociaux. Étant un vieux schnock qui est féru de l'histoire, ce n'est pas la première fois qu'on a cette montée des extrémismes et tout ça. On a connu pendant les années 30 et on a vu Untergang. Je crois, Untergang de la moralité. D'accord. Mais il me semble qu'on doit reconnaître le rôle des médias sociaux à prendre les gens, les capter, d'accord, les mettre dans des silos et en effet de les soumettre, je dirais, à uniquement une logique, une idée, souvent extrémiste. Mais à mon avis, c'est un aspect qu'on ne peut pas ignorer. J'aimerais avoir vos commentaires là-dessus, s'il vous plaît.
Oui, c'est indiscutable. C'est indiscutable et il y a des études là-dessus. Bon, moi, je ne suis pas spécialiste de ça, mais c'est évident. Ce qu'il y a, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce n'est pas ce diagnostic ou ce constat-là, c'est ce qu'on peut faire pour que, justement, les personnes... s'enferme pas là-dedans. Et avant même, dans le diagnostic, je pense que dans les réseaux sociaux, il y a aussi... il y a une telle demande de reconnaissance. On voit bien que le projet d'émancipation des Lumières, que moi j'embrasse, hein, et je crois qu'on est nombreux ici, il a peut-être demandé beaucoup aux êtres en leur demandant l'arrachement. Or, les êtres ont besoin d'attachement. Et dans un contexte comme le nôtre, où beaucoup d'êtres se sentent dans la désolation, dans une solitude, mais dans un monde qui a perdu toute signification pour eux, eh bien, ils s'accrochent à leur petit quart d'heure de gloire. Voilà. Hein. Et je dirais, moi, je m'intéresse quand même beaucoup à ça parce que depuis longtemps, je travaille sur l'écologie qui est liée à des mauvaises nouvelles. À des mauvaises nouvelles sur la gravité du réchauffement climatique, les seuils d'irréversibilité et tout. Et pour moi, très vite, il m'est apparu qu'il fallait être conscient de cela, mais aussi travailler sur des leviers comme l'estime de soi, comme tout ce qui permet aux êtres de, malgré les difficultés, de changer, de... Voilà. Et donc, aujourd'hui, je crois que les réseaux sociaux, bon, ben, ça ne va pas s'arrêter, mais il faut, si on n'offre pas autre chose aux êtres, au niveau du lien social, au niveau de ce qui peut leur donner de l'estime d'eux-mêmes, s'il n'y a pas aussi un projet politique désirable qui montre que, bien sûr, il y a des limites atteintes, il y a tout un tas de choses, mais que, par exemple, par des changements dans les modes d'alimentation, par une autre manière d'organiser l'espace et d'y habiter, on peut être plus heureux. Et puis, qui arrête aussi... C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que tout, aujourd'hui, pousse les êtres à refouler la négativité, qui est énorme, à la refouler et du coup, à justement, le refoulement de cette négativité, de cette culpabilité, de ce sentiment de n'être rien, génère une demande de fierté, je ne dis pas de justice, d'égalité, mais de distinction, de fierté, d'opposition, pour se rassurer. Donc c'est ça. Si les politiques d'identité marchent tant, et l'extrême droite, c'est une politique d'identité, c'est aussi parce que les êtres ne sont pas accompagnés au niveau de la culture pour justement traverser la négativité et puis parce que les projets écologiques et les projets de transformation radicale qui sont nécessaires dans à peu près tous les domaines, alimentation, énergie, etc., y compris pour la cause animale, sont présentés de manière en pointant le doigt, sans être assortis de perspectives où on y trouve son compte, pas seulement pour sa santé, pas seulement pour l'environnement, mais pour soi-même, au niveau de ce qui, comme disait André Gorz, ce qui suffit à ma vie, ce qui la remplit, ce qui lui donne une valeur. Donc, moi, je dirais que c'est vrai que les réseaux sociaux, ça fait... Mais on ne s'en sortira pas si on en reste là. Il faut aussi voir comment on peut accompagner chacun et chacune dans une société où les nouvelles, mauvaises nouvelles, les risques, les menaces, les peurs sont énormes. Et où encaisser ça, ça demande un courage qui est particulier, qui n'est pas seulement celui de Kant, est le courage de penser par toi-même, qui est un courage d'affronter la négativité et de ne pas être écrasé par elle, et malgré tout d'agir, d'avoir sa puissance d'agir. Donc, la notion d'énergie qu'adore Armut Rosa, la quatrième génération de la théorie critique, a fait sa thèse avec Axel Honneth, mais ils sont très différents. Mais d'ailleurs, curieusement, la théorie critique, l'école de Francfort, un peu le fil rouge de ces séances, ils ont abandonné la psychanalyse. Alors moi, je ne suis pas spécialiste de psychanalyse, mais à force de travailler sur des choses comme l'écologie, les questions animales, et à force de voir à quel point nous savons ce qui se passe et nous savons ce que nous pourrions faire, mais que nous ne le faisons pas, à force de constater cet écart entre la théorie et la pratique, la pensée et l'action, je me suis dit, il faut comprendre les obstacles à ces transformations désirées, reconnues comme rationnelles, et assumer le fait que la raison seule est impuissante à lutter contre ces forces de la destruction. Et puis ça permet aussi l'intérêt, l'articulation entre la réflexion sur la subjectivité et les structures socio-économiques, ça ne met pas tout sur les épaules de l'individu, bien sûr, mais ça ne met pas tout sur les solutions technologiques ou les solutions bureaucratiques, dont on voit bien qu'elles ne génèrent pas l'adhésion, sinon l'Europe serait aimée plus qu'elle ne l'est. Le patriotisme constitutionnel du très grand Habermas n'a pas engendré l'amour, enfin, le désir, quoi. Et un Marcuse, c'est pour ça que c'est très intéressant, la première génération de l'école Francfort, qui dit « Héros et civilisation hein, », quel type de désir, d'énergie peut lutter contre les forces de la destruction qui aujourd'hui semblent les plus spectaculaires, mais qui ne sont pas les seules. Et là aussi, quand on dit « on voit trop les réseaux sociaux », ça existe, mais il y a aussi, ça et là, des lieux, des tiers-lieux, des choses qui font. Et il y a Nietzsche qui parle, en allemand, c'est les pieds de pigeon. Il dit à un moment, les choses les plus importantes, ça avance comme des pieds de pigeon, des Taubenfüße. Et je crois qu'il a, enfin, il a raison, Nietzsche.
Nous avons eu ici, il y a un moment déjà, entre Josef Vogel et Cynthia Fleury sur la question du ressentiment, justement, ça serait intéressant de prolonger là-dessus. Mais j'ai vu d'autres questions. C'était où?
Ah.
Devant et derrière. Est-ce qu'il y a d'autres que je n'ai pas vues? Non.
Oui, tout d'abord, merci pour votre exposé. Il m'a semblé cependant que dans une large partie de votre exposé, vous avez marché sur une jambe. Vous avez oublié l'autre jambe. Car depuis une bonne dizaine d'années, le populisme qui a forgé l'extrême droite dans de nombreux pays a pris des formes très différentes. Et il ne faut pas les oublier non plus. Vous voyez, je donnerais pour illustrer mon propos la phrase d'un élu récent d'une grande ville d'Île-de-France qui a dit « Si jamais ce populisme de droite venait au pouvoir, il me semblerait légitime qu'il y ait une insurrection populaire. » Vous voyez, le point commun entre ces deux populismes, c'est bien le refus de la démocratie, le refus du vote, le refus de la légitimité du vote. Et je pense que ce populisme-là, on ne peut pas l'ignorer, car il a pris une forme différente. Il trouve d'ailleurs sa radicalité dans des philosophes tels que Chantal Mouffe, par exemple, qui a forgé l'idéologie de ce populisme de gauche et qui se répand d'ailleurs dans d'autres pays, même si en France il a une force importante, il se diffuse également dans d'autres pays. Voilà.
Mais justement, dans le livre, j'en parle de cela. Là, la conférence, je restreins. Mais la question du populisme, c'est vrai, Yann Werner Müller avait une formule, c'est nous contre... Le pape, c'est moi, quoi. C'est donc nous contre vous. Bon, c'est plutôt un rapport autocratique. Mais moi, je ne parle pas du populisme, là. Je voulais saisir l'intrigue spécifique qui se noue entre une population et des personnes qui appellent au racisme, qui appellent à la violence et qui et là je crois que évidemment il y a plusieurs manières de s'opposer à la démocratie. Et d'ailleurs la démocratie n'a pas aujourd'hui beaucoup de fanatiques parce que justement on lui reproche ses qualités qui sont cette capacité d'encadrer la conflictualité, de s'ouvrir à ce qu'on n'attendait pas vraiment, ce côté inachevé, ce côté parfois laborieux, lent, ça se voit avec les critiques adressées à l'Europe. C'est emblématique des reproches qu'on fait à la démocratie parce qu'on oublie ce qu'elle est et que la culture de la médiation et tout ça. Donc le populisme, c'est le contraire en ce sens-là, qu'il soit de droite ou de gauche, je suis d'accord. Mais il se passe quelque chose de particulier dans un nationalisme qui devient un fascisme. Et moi, j'assume ce terme fascisme. J'assume néo-fascisme, si vous voulez. Je sais que ça ne plaît pas à certains. Pour moi, tout fasciste est un autocrate, mais tout autocrate n'est pas un fasciste. Moi, je n'aime pas non plus les autocrates. Mais un fasciste, c'est quelqu'un qui peut venir de nulle part, on ne le voit pas forcément venir, qui a une sorte de vide et qui utilise justement plus que le ressentiment, qui va s'installer dans ce qui fragilise profondément des individus et une collectivité pour amener cette collectivité vers une politique de guerre, d'opposition, de domination, et qui aura toujours besoin de plus en plus de domination, et dans une logique irrationnelle. Je trouve que William Reich, quand il dit que le fascisme c'est une réponse irrationnelle, c'est pas un système philosophique, c'est pas une idéologie au sens... le stalinisme, c'est une idéologie, ça a conduit à des camps, c'est horrible. No comment. Mais c'est là, moi, je voulais saisir l'essence, enfin, ce qui se passe. Et sans doute, on peut parler d'un nouveau fascisme, c'est pas comme l'ancien. Mais en tout cas, ce fascisme-là, c'est pas seulement des idées, quoi. C'est quand même très lié à des affects. Et c'est pour ça que c'est si puissant. Et c'est pour ça que ça rend folle la raison et que ceux et celles qui débattent devant sont extrêmement impuissants. Ils regardent sidérés ce qui se passe. Et plus c'est des... Donc du coup, voilà, moi c'est ça qui m'intéressait. C'est ça que je voulais comprendre et je voulais aussi comprendre pourquoi. Mais je le dis aussi, la responsabilité aussi des politiques, entre guillemets, libérales, qui... ont fait à croire que finalement, entre la démocratie et un gouvernement qui serait d'extrême droite, il n'y aurait qu'une différence de degré, ou qui vont céder sur certaines choses, sur les principes fondamentaux de la démocratie qu'on ne rappelle pas. Moi, j'ai essayé de rappeler dans le chapitre 4, je ne veux pas le résumer. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? Ça fonctionne avec quels principes? Ben, il y en a. Et si on y touche, on la dévitalise. Et la nôtre est dévitalisée. Et certains responsables politiques qui ne sont pas fascistes d'extrême droite, d'une extrême gauche, comme vous voulez, ont une petite responsabilité aussi là-dedans. Et puis, là, je voulais, parce que je trouve que c'est un tabou, c'est peu dit, je trouve qu'on n'insiste pas assez sur le volet, je dirais pas individuel, parce que c'est pas l'individu contre... non. C'est sur les... Ce que requiert le fait de gouverner un pays. Moi, je suis désolée, tout le monde ne peut pas. C'est pas d'avoir fait l'ENA, c'est qu'il y a des qualités morales sans lesquelles on abuse du pouvoir, on ne respecte pas les règles. Vous avez d'ailleurs énoncé un certain nombre de critères. Et pendant longtemps, les partis politiques faisaient la sélection. Et ça, on ne le dit plus. On laisse n'importe qui a gagné de l'argent et qui a fait de la télé. Et l'autre jour, je dînais à côté d'une dame qui me disait, que journaliste, hein, qu'elle pensait que, si Pascal Pro pourrait être président. Je dis non. Mais non, mais ça peut venir de... Pas besoin d'avoir fait d'études. C'est ça, aujourd'hui, qui nous trouble. Ah, parce que... Voilà. Et donc, du coup, c'est... Et moi, ce qui m'intéressait aussi... Parce que j'en connais, moi, des gens d'extrême droite. Et ce n'est pas forcément des méchants ni des gens pauvres. Ce n'est pas vrai. Non. Et c'est des gens qui, peut-être, il y a quelques années, n'auraient pas basculé dans un discours franchement raciste, appelant à évacuer des gens. Franchement raciste. Avec l'idée que des digues peuvent sauter. Donc, moi, c'est ça que je cherche à comprendre pourquoi. Des gens qui sont pas malheureux, qui ont des piscines privées, des grosses voitures. Allez en province. Il y a des endroits, il y a des discours où vous discutez, au bout du deuxième café, ben vous entendez CNews. Et il n'y a pas un immigré, il n'y a pas... Donc qu'est-ce qui s'est passé pour que ce discours-là soit devenu audible et même sans complexe? Et qu'est-ce qui... Donc du coup... c'est ça, la démocratie, c'est ça suppose le désir de vivre ensemble. Et le tabou, c'est donc au niveau des représentants, ces qualités, mais aussi au niveau des gouvernés, qu'est-ce que l'éducation aujourd'hui ? Vous parlez des réseaux sociaux, mais il y a un décalage énorme entre les défis que nous avons et une éducation qui s'adresse seulement au cerveau et qui ne permet pas de vivre avec les autres, de traverser la négativité, de manger autrement, qui fait que les enfants, finalement, encaissent des mauvaises nouvelles, des massacres sans arrêt. On croit qu'ils refoulent ça, mais ils ne le refoulent pas. Donc, voilà, c'est ça. C'est un peu comme Adorno, vraiment, quand il disait, fin des années 50, il disait, la première exigence de l'éducation, c'est de rendre impossible Auschwitz, qui n'est pas seulement un événement, mais le principe de la barbarie. Et il ajoute aussitôt, personne ne s'en occupe. En fait, ça pourrait revenir. Et quelle réponse il y a, justement, à mon avis, ce n'est pas seulement les livres, il y a une éducation, une maturité émotionnelle à avoir, qui est loin d'être le cas. Et donc, et c'est un tabou parce que aujourd'hui, l'idée, c'est que quand on fait de la sociologie, bon, j'en fais pas, mais voilà, ceux qui font, ben, faut que les déterminations, voilà, ou alors en sciences politiques, c'est les institutions, bien sûr, les structures socio-économiques. J'ai jamais dit qu'elles étaient non importantes. Elles sont fondamentales. Elles ont un impact tel sur notre subjectivité. Mais il y a un ressort, il y a une démocratie, c'est ça la démocratie, c'est que ça suppose, Montesquieu disait, la culture, moi je dirais ça suppose le sens de la justice, ça suppose une certaine maturité, et on ne la donne pas, on n'en parle même pas. Donc moi je voulais lever ce tabou, alors c'est sûr qu'en parlant de puissance du féminin, je vais donner le bâton pour me faire battre, mais j'en ai rien à faire.
Très bien. Bon, on est revenu vers Götz-Ali avec cette question de l'éducation. On est presque à la fin de notre temps, mais je pense qu'on a 5 minutes pour une dernière question. Donc, il faut qu'elle soit brève, cette question.
Oui, alors merci beaucoup. Depuis que je suis enfant, en fait, je m'intéresse à la géopolitique. En fait, je voulais avoir votre avis par rapport à un point de vue qui est très fort dans l'opinion publique mondiale, en fait, enfin surtout dans le tiers monde, disons, qui est que c'est le point de vue suivant, c'est que en fait, les pays qui sont vus comme qui font figure de sagesse sont les pays comme la Chine et la Russie, en fait, pour l'opinion publique mondiale, et que inversement, l'Occident, notamment de l'axe États-Unis-Israël, c'est un peu devenu l'axe du mal qui veut régner par la guerre et le mensonge. Et je voulais savoir quel est votre point de vue là-dessus.
Ça, oui. Moi, je vais répondre un peu à côté. Si vous voulez, vous avez parlé d'Occident. Bon, c'est vrai que chez les jeunes, on observe parfois une sorte de fascination pour la Chine qui, moi, me laisse sans voix. Mais précisément, on reproche à la démocratie ses qualités parce qu'on n'a pas, rappelé ses principes, voilà. Et puis, faire face à l'incertitude, c'est difficile. Mais l'Occident, moi, si vous voulez, je pense que, c'était au cœur de mon travail dans Les Lumières à l'âge du vivant, il y a une autocritique à faire de l'Occident, sa responsabilité à l'égard du modèle de développement et à l'égard du passé. L'Europe a une responsabilité à l'égard de son passé. Bon, bien sûr. Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Par exemple, les Lumières, dont moi j'ai analysé l'héritage, mais de façon critique, en voyant très bien les impensés, la fausse universalité dont elle se réclamait, en s'abritant derrière des principes soi-disant généraux pour imposer la domination, mais quand même l'unité du genre humain, quand même l'idée que la raison est l'organe nous permettant de nous libérer d'assignation, quand même l'idée de fonder un ordre social sur l'autonomie de la raison et pas sur des hiérarchies naturelles ou fonctionnelles. Donc, c'est pour ça qu'il y a une différence entre ce que Zernel appelait les anti-lumières, qui sont une arme de guerre contre les Lumières et qui veulent un projet politique sur la subordination d'une partie de l'humanité par une autre et qui ne veulent pas entendre parler d'unité d'humanité. Il y a une différence entre ça et les postmodernes qui ont repris les idéaux des Lumières en disant qu'elles n'avaient pas tenu leurs promesses. Par exemple, les féministes ou les postcoloniaux qui disaient que le projet d'égalité, il avait été un petit peu, il avait mis de côté une partie de l'humanité. Voilà. Mais c'est au nom de ces principes-là qu'ils veulent aller plus loin. Et ben moi, je trouve qu'il est malsain aussi de se vautrer dans la haine de soi. Et ça, parfois, ça s'entend, l'Occident, l'Europe. Non, il y a des choses extraordinaires, mais il y a une autocritique. Je trouve que là encore, c'est une réflexion sur l'Europe. L'Europe après l'Europe, disait Patochka, grand penseur mort presque sous la torture, 10 ans après Printemps de Prague. Eh bien, c'est au moment où l'Europe n'est plus si forte, c'est peut-être le moment de réfléchir à son message philosophique, ce qu'elle a à dire sur justement, et il appelle ça le soin de l'âme qui est lié à la réflexion sur le non-dogmatisme, sur ce qui est la problématicité du monde, il dit. C'est magnifique. L'idée que, voilà, la fascination pour la Chine, pour Poutine aussi, elle est liée à cette force, à ce mirage de la force, mais qui est un mirage. C'est pour ça que moi, ce qui m'intéressait là, c'est penser une puissance qui ne soit pas la force. Penser une potentia, une créativité, une puissance de résistance, de proposition d'un modèle de développement différent, qui abolisse un certain nombre de pratiques, qui incarne la domination et la culture de mort, notamment à l'endroit d'êtres dont on fait bon marché, les animaux. Donc, tout ça, donc une puissance, quelque chose, une émancipation réelle, un projet politique, c'est vrai, l'écologie, une réflexion, enfin, écologie, animaux, féminisme, c'est quand même des mouvements qui attestent le vœu d'une partie de la population de vivre, avoir un rapport aux autres, au monde et à soi qui ne relève pas de la domination. C'est une puissance qui n'est pas la domination. Moi, c'est ce que j'appelle puissance du féminin, qui s'adresse aussi aux hommes, mais qui s'appuie justement sur une histoire où qui suppose qu'on prenne conscience de ce qui ne va pas. Et que, comme les écoféministes, qui, par leur situation un peu de... On les traitait d'hystériques, ils n'étaient pas entendus. D'une certaine manière, ça donne l'œil pour remarquer ce qui ne va pas, et qui est pourtant très puissant, technique et tout ça, et aussi pour remarquer ce qui peut, ça et là, être des signaux avant-coureurs de notre manière de faire, de la politique.
C'est une excellente conclusion. Je pense qu'on s'arrête sur la problématicité du monde et des écoféministes, et avec une invitation, évidemment, d'acheter le livre de Corinne Peluchon qui est en vente devant la salle, si vous souhaitez continuer la lecture en français et en allemand. On a les deux exemplaires. Merci beaucoup d'avoir été là. On va recommencer en automne, justement, avec un cycle sur la géopolitique. Donc, vous pouvez revenir poser vos questions à ce moment-là. Merci beaucoup, Corinne Peluchon, pour ce très riche exposé qui a ouvert plein de portes.